nous allons lire dans le livre de la Genèse un verset pour commencer, au chapitre 2, où au moment de la création, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. On plante ainsi le décor d'une scène qui va se dérouler ensuite. Des arbres agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà le décor que notre Dieu plante dès le début de sa parole. Et il fixe un commandement au verset 16. Ce jardin qu'il a donné à l'homme pour son bonheur, pour le cultiver et le garder, il lui dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Un commandement et une menace également. Quel était le sens un peu de cette mise en place, de ce décor planté de cette façon ? Dieu, dans sa grandeur, dans sa bienfaisance, dans sa bienveillance à l'égard de l'humanité, a placé l'homme au bénéfice de toute abondance, de toute suffisance pour ses besoins, de toute satisfaction, non seulement les besoins vitaux, mais la satisfaction et la jouissance esthétique, gustative. Je rejoins là encore une fois le message de Mathieu Girard de la semaine dernière. Tout épanouissement dans son labeur et dans ses relations. La connaissance de Dieu, sa présence, manifestée par sa présence dans le jardin, sa communion, la parole qui était adressée à l'homme jour après jour, était destinée à faire tout le bonheur de l'homme. Et au milieu de ce jardin, un arbre, l'arbre de la vie, pour lui rappeler constamment que la vie vient de Dieu et qu'elle est constamment renouvelée par Dieu. Des pensées peut-être qui évoquent en nous ce que nous avons oublié aujourd'hui concernant tout cela, sur le plan éthique en particulier. Et au milieu, un arbre également, celui de la connaissance, à côté du milieu, pardon, un arbre également, celui de la connaissance du bien et du mal, pour signifier que cet arbre qui était l'arbre interdit, ce discernement, cette intelligence, cette détermination du bien et du mal sont des prérogatives divines exclusives, qu'elles ne lui appartiennent qu'à lui. Et la tentation de s'arroger cette connaissance, que nous allons voir dans les textes que nous allons lire ensuite, a un sens. C'est pour l'humain, l'humanité créée, vouloir décider à la place de Dieu, personnellement, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'introduction de ce qu'on appelle le relativisme, dire « je détermine moi-même mes normes ». C'est revendiquer la science absolue, c'est revendiquer la toute-puissance pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est revendiquer aussi, pas simplement une connaissance intellectuelle ou morale ou éthique du bien et du mal, mais c'est revendiquer aussi de la part de l'homme d'agir en fonction, de prendre ses décisions en fonction de ce que lui-même a déterminé comme étant bien et comme étant mal. C'est revendiquer, par rapport à Dieu, l'autonomie, c'est revendiquer l'indépendance, c'est se créer une illusion de liberté. Et cet arbre que Dieu a placé au milieu d'un jardin de la toute jouissance avec cette interdiction constitue un test, constitue une épreuve devant laquelle l'homme va pouvoir, par la décision qu'il prendra, prouver que l'amour, la confiance qu'il a dans son Dieu, dans son Créateur, la dépendance qu'il a acceptée de son Créateur, qui sont des évidences pour lui, eh bien, elles se traduisent tout simplement par l'obéissance. Et ce n'est pas un piège que Dieu a tendu ici, c'est simplement même encore une occasion bienveillante de manifester par l'obéissance l'amour que l'homme manifeste à son Dieu, à son Créateur. Et la désobéissance précisément dans laquelle il va entrer, constitue le péché. Véritablement, c'est l'irruption du péché dans le monde. C'est briser cette relation de confiance et de dépendance de Dieu, cette relation d'amour dans laquelle l'homme a été créé. C'est remplacer la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la relation avec Dieu, l'écoute de sa parole, la sagesse, telle que l'Écriture nous la présente ensuite dans le livre des Proverbes, par exemple, cette connaissance de Dieu, par une prétendue connaissance du bien et du mal que l'homme s'est approprié. C'est vivre de cette connaissance, décider de vivre de cette connaissance du bien et du mal au détriment de la vie avec la connaissance de Dieu qui est toute suffisante pour son bonheur et son épanouissement. Et donc, le scénario qui va se mettre en place et que nous allons lire dans les quelques versets suivants, qui est bien connu, ce sont ces textes fondateurs de l'Écriture, nous dit que le serpent qui personnalise l'adversaire Satan, au chapitre 3, verset 1, je lis, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. On pourrait schématiser un petit peu le scénario de cet événement. Le lieu, un jardin, le jardin d'Éden, un arbre au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur lequel Dieu a posé un interdit, et le tentateur qui est à l'œuvre. La tentation, c'est d'abord de se trouver pour Ève et Adam devant cet arbre, en admiration, en séduction de son fruit, et la désobéissance. Adam et Ève étant tout à fait, l'Écriture, toute la suite de l'Écriture nous le démontre, solidaire de cette désobéissance, va consister à faire l'expérience du péché, à expérimenter concrètement le mal. Et il va s'en suivre de la part de Dieu, non une sanction, mais de la part d'Ève et Adam, non pas ce que Satan mensongèrement lui avait promis, une connaissance supérieure, être comme des dieux, mais au contraire, une descente vers le bas dans la conscience de leur mortalité, de leur vulnérabilité devant Dieu. Et vous savez que c'est cette nudité qu'ils vont expérimenter comme une honte, et il n'y a là rien de sexuel dans ce récit, mais c'est l'expérimentation de la vulnérabilité, de la mortalité devant Dieu, et la conséquence, c'est que Dieu va leur barrer la route du chemin à l'arbre de la vie. Et cet arbre qui était destiné à leur donner un renouvellement perpétuel de cette vie avec dans le jardin de Dieu va leur être désormais interdit et ils vont être chassés du jardin de Dieu. Voilà le scénario primordial. Et l'Écriture, à partir de là, nous invite à une compréhension parce que le plan de Dieu va se poursuivre. Il va y avoir une révélation progressive de la personnalité de Dieu, de ce qu'il veut mettre en place pour remonter ce scénario en quelque sorte à l'envers, y trouver solution. L'Écriture va nous inviter à une compréhension de ce plan de Dieu avec cette notion du premier et du second Adam. Et je voudrais simplement vous afficher ici un tableau qui montre la lecture de Romains chapitre 5, les versets 12 à 21, que nous allons pas lire en entier, mais où l'apôtre Paul éclaircit notre compréhension en nous disant que le premier Adam, par lui, le péché est entré dans le monde et qu'il y a eu un second Adam, Jésus-Christ, par qui la grâce de Dieu et le don de sa grâce se sont manifestés et ont été répandus sur toute l'humanité. Par l'offense d'un seul, du premier Adam, la mort a régné par lui. Mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par Jésus-Christ. Lui seul. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes et nous sommes génétiquement marqués par le péché en nous, mais par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et vous voyez ce parallèle qui est fait entre la désobéissance d'un seul homme, l'obéissance d'un seul qui nous rend juste. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul reprend ce raisonnement. La mort est venue par un seul homme, par ce premier Adam. Et aussi, c'est par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts, par Jésus-Christ, le second Adam. Tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. Il y a là une invitation à saisir le fait qu'une histoire a commencé en Éden et que cette histoire, elle trouve rendez-vous à un autre moment. Et nous sommes ici véritablement au cœur de Pâques, du sens de Pâques, parce que ce scénario qui s'est déroulé dans le jardin d'Éden, nous allons le voir se dérouler dans ces quelques jours qui entourent ce moment de Pâques. C'est dans un jardin à nouveau que Jésus s'est trouvé, le jardin de Gethsémané. Et Charlie, dans sa prière tout à l'heure, l'a évoqué qu'à ce moment-là, par trois fois, Jésus a été soumis au tentateur. Ce tentateur qui, au début de son ministère, était déjà intervenu pour lui dire « Mais tu as mieux à faire que de passer sur la croix. Il y a autre chose que je peux t'offrir si tu te soumets à moi. » Et le récit de cette tentation, souvenez-vous, se termine par ces mots que Satan le laissa jusqu'à un moment plus favorable. Et tous voient dans la scène du jardin de Gethsémané ce moment plus favorable où Jésus va être soumis à une tentation par trois fois s'il était possible que j'évite la croix, que je passe à côté de ce moment qui va être tellement douloureux. Et nous comprenons par la suite pourquoi ce moment est douloureux. La croix. Il est très intéressant de voir que dans plusieurs textes de l'Écriture, le même mot signifie l'arbre dont on a parlé dans le jardin d'Éden et le bois de la croix. Le même mot est utilisé. Et il prend aussi dans le grec un autre sens que nous évoquerons un peu plus loin. Galates, au chapitre 3, le verset 13, nous dit que ce bois, c'est un bois maudit. C'est la malédiction que Jésus était appelé à connaître sur cette croix. Et par son obéissance, lui qui a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, il a connu cette expérience du mal. Dans 2 Pierre au chapitre 5, le verset 21, on va lire ce texte. L'apôtre Pierre nous dit que Jésus a connu l'abandon de Dieu, a connu l'obscurité qui pesait sur lui de tous les péchés de l'humanité au moment de la croix et que... Je me suis trompé de référence, je suis désolé. Attendez, je vais le retrouver rapidement. C'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 21. « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de faute, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et on a là la description de toute l'expérience de la croix et de la crucifixion. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et dans 1 Corinthiens, il y a un texte, 2 Corinthiens, pardon, il y a un texte que je n'ai pas noté ici, je me rends compte que j'ai oublié cette référence, où il est dit qu'il a été fait littéralement péché pour nous. C'est-à-dire que le péché est devenu partie intégrante de son intégrité, lui qui était fils de Dieu. Et donc cette expérience du mal, il l'a faite sur le bois maudit de la croix. Et on voit là un parallèle étonnant avec l'expérience d'Éden, d'Adam et Ève, du premier homme, l'expérience du second Adam, qui dans les mêmes circonstances, soumis à la tentation d'un arbre, a accepté d'y monter sur cet arbre pour connaître véritablement le péché, parce que c'était le seul plan de Dieu, l'aboutissement du plan de Dieu, qui allait nous redonner accès à cet arbre de la vie auquel nous avions accès, que nous avions totalement perdu, accès auquel nous n'avions plus par la faute de notre péché étendu à l'humanité tout entière. Et la croix est devenue, en quelque sorte, à la fois le symbole de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, qui avait la parfaite, en tant que Fils de Dieu, la parfaite connaissance du bien, a accepté pour nous de faire l'expérience du mal et du péché. Il est devenu péché pour nous. Cette croix, qui est devenue maintenant, parce qu'elle est vide, parce que Jésus est ressuscité, symbole de notre vie éternelle recouvrée par la mort de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 4, je voudrais lire ce texte qui là encore fait le résumé de l'expérience de Jésus sur la croix. Hébreux chapitre 4, les versets 7 à 9. Je suis désolé, j'ai fait plusieurs erreurs de référence. C'est 5, versets 7 à 9. C'est Christ qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À quel événement est-il fait allusion ici? Bien entendu, pour une partie tout au moins, à l'événement du jardin de Gethsémané, où Jésus a pleuré, « Seigneur, s'il est possible, mon Dieu, s'il est possible que je ne passe pas par cette expérience de la croix. » Et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est l'exaucement au travers de la résurrection. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes au cours de sa vie. Mais sur la croix aussi, il a manifesté son obéissance. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On a ici, vous le voyez, ce retour en arrière par rapport au scénario d'Éden. Et il y a quelque chose de plus dans quelques instants. Benjamin va nous inviter à la célébration de la scène. Il y a quelque chose de plus encore qui est mis en évidence par Jésus-Christ lui-même au moment du repas de la scène, qui symbolise justement cette mort à la croix, son sang versé. C'est que Pâques nous ouvre sur une espérance. La scène nous invite à une espérance. Et quand nous lisons Apocalypse, les derniers chapitres 20, 21 et 22, nous nous retrouvons dans un nouveau lieu qui est celui de la cité-jardin, la nouvelle Jérusalem. Cette cité-jardin dans laquelle il nous est dit qu'il y a un fleuve qui coule, il y a des arbres plantés autour de ce fleuve et un arbre en particulier. Le tentateur, lui, n'est plus dans ce jardin. Il a été définitivement vaincu. Dieu l'a précipité, le tentateur, le diviseur, Satan. Il n'y a plus de tentation. Apocalypse, au chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera dans cette cité, la Nouvelle Jérusalem, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Et dans cette cité, il n'y a plus de mal, plus de mort, plus de nuit, plus de maladie. Et il y a un arbre à nouveau. Il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est absent. Mais il y a le trône de l'agneau. Et c'est intéressant de voir que ce même terme qui désigne l'arbre, le bois, la croix, dans le grec, a un sens qu'on ne retrouve pas précisément dans l'écriture ici, mais qui est celui du trône également. Et on a ici un trône sur lequel siège Jésus-Christ. Il n'est plus sur une croix, il est maintenant sur le trône de l'agneau. Et ce trône de l'agneau nous ouvre la perspective sur un arbre de vie qui est de nouveau accessible. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est le symbole de notre nouvel accès à la vie éternelle en particulier. Et on voit ici que nous sommes plus appelés à l'obéissance, mais nous sommes appelés à un service naturel qui découle de notre nouvelle nature, servir notre Dieu, le voir face à face et l'adorer pour l'éternité. Et lorsque Jésus dit « Je ne mangerai plus de ce fruit de la vigne, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à un nouvel événement, un nouvel état », il nous ouvre les yeux sur le fait que Pâques, ce n'est pas un aboutissement fermé, mais c'est l'ouverture par la résurrection de Christ vers notre propre résurrection et notre vie éternelle dans la présence de notre Seigneur. Je vais inviter Benjamin à venir célébrer le repas du Seigneur ici maintenant. Et dans un deuxième temps de cette prédication, un peu plus tard, après que nous ayons pu à nouveau louer le Seigneur, en étant émerveillés par ce plan de Dieu qui se déroule depuis le début jusqu'à la fin, avec une logique et une cohérence où Dieu veut reconstruire. Il a un but, les relations d'amour, de confiance qui ont été perdues par l'irruption du péché avec nous. Il veut les reconstruire par Jésus-Christ, son Fils lui-même venu sur la terre, celui qui a été l'homme parfait que n'avait pas été le premier Adam et que nous ne sommes aucun d'entre nous. Ces relations, Dieu veut les reconstruire. Et il y a là une cohérence du début à la fin de la parole de Dieu qui m'émerveille personnellement et j'espère que... ce que je vous ai présenté ce matin, ce parallélisme qu'il y a entre Éden, la Pâque, les événements qui se sont déroulés sur le Golgotha et ce qui nous attend dans l'éternité, nous émerveille aussi de cette cohérence de la parole de Dieu, de cette intelligence, de cette logique, parce que Dieu est un Dieu logique, est un Dieu d'ordre qui répond à notre besoin de compréhension. Et nous pouvons remercier Dieu aussi pour une parole qui, du début jusqu'à la fin, est cohérente. Je suis émerveillé de voir que cette parole écrite par autant d'auteurs différents répond à une logique, à un plan qui se déroule, à un objectif de Dieu qui est celui de nous sauver, de nous restaurer dans notre relation avec lui, dans notre bonheur et dans la jouissance de l'abondance de sa grâce qu'il a voulu dès le début. Que nous puissions prendre la scène dans cet esprit d'adoration et de reconnaissance à notre Dieu et continuer à le louer pendant les quelques instants qui suivront de cette façon. Dans un deuxième temps, je reviendrai pour que nous puissions tirer quelques considérations pratiques de ces événements du début du livre de la Genèse. Je vous propose de reprendre au point où nous en étions arrêtés tout à l'heure, pour quelques minutes simplement, et essayer de tirer en quoi ce que nous avons vu ensemble de ce plan merveilleux de Dieu révélé au travers de l'Écriture change peut-être dans nos vies. Ce en quoi ce récit de la Genèse peut nous aider dans nos vies quotidiennes, face à la tentation, face à l'épreuve. J'ai terminé tout à l'heure en soulignant cette cohérence de l'Écriture qui nous raconte une histoire, un projet de Dieu, un plan de Dieu du début à la fin. Il l'a commencé, il le mènera à son achèvement et nous l'avons célébré en nous rappelant ce vers quoi Dieu nous appelle au travers de Pâques à voir la gloire à venir, la gloire de Christ à la droite du Père. Si seulement nous pouvions voir dans l'Écriture autre chose qu'un livre de consignes, un livre de morale, nous puissions voir vraiment la relation de cette merveilleuse histoire d'amour de Dieu envers nous, amour déçu, amour reconstruit, et amour pour l'éternité envers chacun de ceux qui se confient en lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cela nous fait du bien de nous rappeler que Pâques, ce n'est pas que les petits lapins en chocolat ou les petites poules en chocolat et le lundi férié, mais que c'est cette perspective et que nous puissions vraiment la garder présente à l'esprit. Notre sœur Rosalie Bénet, qui ne peut plus, à cause de sa santé, venir dans nos cultes, à chaque dimanche de Pâques, saluez chacun d'entre nous en disant « Christ est ressuscité ». Et si vous lui disiez simplement « Bonjour Rosalie », elle vous fusillait du regard en vous disant « Christ est ressuscité ce jour particulièrement, c'est ainsi qu'il fallait qu'elle salue ses frères et sœurs et qu'on nous lui répondions également. » Je crois que c'est une tradition hongroise, mais une belle tradition que de nous souvenir pendant toute cette journée que c'est cela. L'Écriture nous rappelle cela, Christ est ressuscité. Et cette cohérence de l'Écriture, elle tourne autour du message central de la croix. La croix, ce lieu où Christ a réconcilié Dieu avec les hommes, où Christ a payé les conséquences du péché depuis le début jusqu'à chacun d'entre nous, le péché de tous ceux qui placent leur confiance en lui, c'est un événement qui est central dans l'Évangile. Et je crois que de nous le rappeler nous incite à ce que dans les circonstances de nos vies que nous pouvons connaître, nous pouvons être encouragés par cette perspective. Parce que ce que nous avons vu tout à l'heure, ça je l'ai déjà évoqué, c'est un temps de test que Dieu a placé devant l'homme. D'avoir placé cet arbre et de leur avoir dit « n'en mangez pas », c'est une épreuve auquel il les soumettait, pour non pas qu'ils échouent, mais pour qu'ils puissent manifester tout leur amour pour le Créateur, leur confiance en lui, leur dépendance de lui. Et nous sommes aussi placés dans nos vies face à des temps d'épreuves. Et des questions simplement que je vais donner ici très brièvement, sans forcément les commenter. Mais dans ce temps de l'épreuve, où je suis appelé à manifester la victoire par la foi, dans l'amour et la confiance en Dieu, quel écho est-ce que je donne à la tentation qui m'assaille? Et ce sont des moments d'épreuve, les moments où nous sommes peut-être plus fragiles et faibles, où la tentation peut-être est la plus forte. Tentation de nous tourner vers quelqu'un d'autre que notre Dieu. Tentation d'accepter d'entrer dans une forme d'évaluation de Dieu, comme l'ont fait Adam et Ève. Dieu qui nous a donné ce jardin avec l'interdiction de cet arbre, nous veut-il vraiment que du bien? Nous aime-t-il? Veut-il nous faire vivre dans une telle abondance alors qu'il nous interdit celui-ci et que nous nous plaçons devant avec ce regard de séduction? Est-ce qu'il nous arrive dans les temps d'épreuve de nous poser des questions sur la bonté de Dieu? Il est légitime de se les poser. Jésus-Christ lui-même s'est écrié sur la croix, écrasé par le péché qu'il portait, l'obscurité qui le séparait de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il connaissait la réponse. Il était en train d'accomplir ce pourquoi il était venu, ce pourquoi il avait été envoyé, et il entrait dans l'obéissance à ce moment-là. Dans l'épreuve, est-ce que je comprends qu'elle survient parfois, souvent, pour me faire grandir dans plus d'amour pour Dieu et plus de dépendance vis-à-vis de lui, plutôt que de m'inciter à fuir dans l'autonomie, la suffisance, de me dépatouiller moi-même dans ces circonstances et de ne pas compter sur Dieu. Et en disant cela, je vois ma propre faiblesse, que souvent d'avoir recours à la recherche d'une connaissance, d'une compréhension des choses ou d'une compréhension de la délivrance qui ne repose pas sur Dieu, qui exclut totalement Dieu dans le temps de l'épreuve. Et puis ce récit, bien sûr, du chapitre 3 de la Genèse, nous amène à tourner les regards vers la grande question de la tentation dans nos vies, de ce que Satan, nous-mêmes, notre fragilité charnelle, ce à quoi Satan ou nous-mêmes, dans notre fragilité charnelle, nous confronte. Il y a des questions à se poser à ce niveau-là, au travers de l'expérience d'Adam et Ève. Où est-ce que la tentation me trouve ? Notez bien, lorsque Ève répond à Satan, elle dit « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit de ne pas en manger. » Dieu avait défini un milieu, et tout élève en géométrie sait qu'il n'y a qu'un seul milieu. Et le milieu qui était défini par Dieu, c'était l'arbre de la vie. C'est-à-dire autour de cet arbre, je veux que ta vie gravite maintenant, homme et femme. Et Ève avait trouvé un autre milieu. Et c'est notre problème parfois, autour de quoi notre vie gravite quand la tentation vient nous assaillir. Est-ce que je suis décentré des ressources que Dieu m'a données pour ma vie? Est-ce qu'elles ne font plus partie de mon essentiel et elles me trouvent alors si fragile parce que je ne suis plus tourné vers la satisfaction des grâces de Dieu, mais je suis tourné vers la frustration? Je ne retiens de tout ce que Dieu m'offre que ce peut-être qu'il me demande de respecter comme ne m'appartenant pas ou comme ne m'ayant pas été donné. Est-ce que dans la tentation, je suis tourné vers l'abondance ou vers ce dont je crois manquer ou que Dieu me refuse? C'était le problème d'Ève. Dieu nous a dit « Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez ». Et à ce moment-là, Satan a une autoroute ouverte devant lui pour entrer en discussion. Et ça, c'est une autre question. Est-ce que j'accepte d'entrer en discussion avec le tentateur ou mes propres désirs ou mes voix intérieures? On pourrait multiplier les exemples précis. Je suis chrétien, c'est un lieu dans lequel il n'est pas bon qu'un chrétien aille. Mais juste une fois, parce qu'on m'y invite, parce que je ne veux pas me désolidariser. Je suis devant mon écran d'ordinateur prêt à appuyer sur un clic qui n'est pas sain pour moi, mais juste une fois pour voir par curiosité. Et à ce moment-là, je tombe dans l'esclavage, dans l'enchaînement, les maillons se referment et l'adversaire a beau jeu de m'ancrer dans cette dimension et au travers de cela d'avoir rompu ma relation avec Dieu et ma communion avec Dieu et la liberté de ma conscience dans cette démarche. Est-ce que face à la tentation, est-ce que je prends Dieu au mot ou est-ce que je fais ma propre interprétation de sa parole? Dieu avait dit à Adam et à Ève, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Les propos d'Ève sont très intéressants. « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. » Dieu avait-il dit « Vous n'y toucherez point ?» Il y a une tendance à voir dans nos vies de chrétiens parfois, dans des moments de faiblesse, et c'est là que la tentation nous assaille, qu'il y a des restrictions, qu'il y a des privations qui vont bien au-delà de ce que Dieu a voulu dans sa parole. Et nos yeux sont tournés vers ces privations en nous disant que c'est dur d'être chrétien. Et c'est une frustration constante que la vie chrétienne. Combien de temps je tiendrai? Pas longtemps si je suis dans ce raisonnement, bien entendu. De rajouter aux restrictions. Et la fin du propos d'Ève, de peur que vous ne mouriez. Jésus avait dit quelque chose de plus. Dans le texte hébreu, il a dit que mourir, vous mourrez. C'était une insistance particulière sur la sanction. Et il y a une deuxième tendance par rapport à la parole de Dieu. C'est de minimiser le risque de la menace qui pèse sur nous lorsque nous sombrons dans le péché. Prenons la parole de Dieu vraiment au mot pour ce qu'elle veut nous dire, non pas restreignant plus que ce qu'elle ne restreint, non pas en minimisant bien au-delà de ce que Dieu a dit. Le péché est quelque chose de grave, nous ne pouvons pas jouer avec dans nos propres vies. Nous ne pouvons pas amplifier l'exigence ou minimiser le risque du péché. Est-ce que je crois naïvement aux promesses mensongères de l'adversaire ou du monde qui promet et qui promet? Combien de situations dans l'Écriture où nous voyons des personnages bibliques appelés à la fidélité ont sombré parce qu'ils ont cru au mensonge de ce qui était promis? Satan leur promet la connaissance, les yeux ouverts, vous serez comme Dieu. Et en fait, de résultat, ils ont été précipités dans un statut tellement inférieur à celui que Dieu avait voulu pour eux au départ. La communion a été rompue avec Dieu. Ils se sont retrouvés vulnérables, mortels, à vivre des conséquences lourdes que je ne détaille pas ici de la chute et qui expliquent tellement de situations de notre humanité actuelle. Est-ce que j'ai appris face à la présence du tentateur ou de la tentation à fuir dès le premier indice de doute ou de faiblesse, dès que je me sens vulnérable? L'Écriture nous dit « résister ». Au tentateur, il fuira loin de vous. Est-ce que je recherche, comme Ève, des secours ou des complices? Adam était à ses côtés, et elle en donna du fruit de l'arbre à Adam qui en mangea également. Elle a trouvé un complice, parce qu'elle a cherché un complice. Il y avait un autre secours à chercher dans le jardin. Il y avait la présence permanente et accessible de Dieu. Mais elle a cherché un complice plutôt qu'un secours. Et combien de fois dans nos vies, face au péché, c'est plus un complice que nous cherchons plutôt qu'un secours? Est-ce que j'assume pleinement l'autorité dont Dieu m'a investi pour faire face au péché? Il y a un grand absent pendant une bonne partie de ce récit. C'est Adam qui avait reçu en propre cette consigne de Dieu et qui, au moment du tentateur, aurait dû s'interposer et user de son autorité comme premier créé pour faire face au tentateur et protéger Ève, qui était en situation de fragilité en l'occurrence ici. Et c'est la raison pour laquelle Adam est autant coupable qu'Ève. L'Écriture nous le montre bien dans les textes que nous avons lus tout à l'heure de l'apôtre Paul. C'est Adam qui est nommé le premier Adam, le premier homme qui a péché. Parce que de l'autorité dont Dieu l'avait investi, il n'a pas fait un usage approprié. Et il n'a pas été le protecteur. Et Dieu nous a investi aussi d'une autorité pour pouvoir faire face à la tentation. Dire à Satan, retire-toi, arrière de moi Satan. Tout le récit de la tentation de Jésus est un modèle de la façon dont nous pouvons répondre à Satan par la parole de Dieu, en le repoussant dans ses retranchements et en lui disant « Non, je n'accepte pas ce que tu me proposes, ce que tu fais briller devant moi parce que c'est un mensonge. » Une dernière chose que je voudrais soulever ici à titre un peu pratique, est-ce que j'ai appris à me méfier de mes sens? Combien de fois dans l'Écriture encore nous le voyons que c'est le regard. Ève vit que l'arbre était bon à manger. Est-ce que vous avez déjà été capable de voir qu'un fruit est bon à manger si vous ne l'avez pas goûté? Et lorsque le regard s'appesantit sur ce qui me séduit, bien entendu, j'en viens à goûter également. Elle vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Ne le savait-elle pas? Dieu avait dit, je vous ai planté des arbres suffisants, agréables à voir et bons à manger. Mais elle s'est laissée séduire par la vue. Et l'Écriture et Jésus-Christ lui-même, à plusieurs reprises, a mis en garde contre le regard, ce regard qui s'apesantit alors que nous savons que nous sommes là sur un chemin qui devient glissant. Là aussi, nous avons une exhortation au contrôle de notre regard, de notre vue, et à nous tourner plutôt vers la confiance que nous avons dans la parole de Dieu, qui est la vérité, qui affirme avec cohérence le plan de Dieu et le projet de Dieu pour nous, qui est un projet de bonheur, d'abondance, et que nous puissions véritablement garder cela présent à l'esprit, comme le son de ce texte, et nous rappeler combien ce texte et l'anticipation, l'antichambre de Pâques, de la venue de Christ à la croix, et que la croix est le message central. Et lorsque cette tentation, nous y avons fait faillite, l'Écriture nous dit que c'est à la croix que nous pouvons revenir. L'Écriture n'a pas un message pour nous enfoncer, elle a un message pour nous libérer. Et Christ nous dit que si nous avons péché, nous pouvons venir à lui, qui nous pardonne de tout péché, qui nous libère. Amen.